kind of music.
Les trans, les PD, les Gwyn et leurs alliés déviants
prennent l'antenne sur Radio Canu,
la plus queer des radios.
Une émission sur la thématique du travail du sexe de rue avec des invités qui sont ici avec nous. Et maintenant, on va vous présenter les informations.
Alors, on démarre les informations avec donc Christian Van Estre, le sinistre député UMP du Nord, qui a été blanchi par la Cour de cassation mercredi 12 novembre. Et oui, vous ne rêvez pas, tout est possible. La Cour a jugé qu'il n'avait pas dépassé les limites de la liberté d'expression. Mais pourtant, en janvier 2005, Van Estre avait déclaré que l'homosexualité était une menace pour la survie de l'humanité, ce qui est déjà pas mal, surtout quand on sait qu'il a dit ça juste quelques semaines après la promulgation de la loi réprimant les propos injurieux ou diffamatoires en raison de l'orientation sexuelle. Mais l'horrible Van Estre n'en avait pas fini. Pour se justifier, parlant de l'homosexualité, il avait répondu « Je n'ai pas dit qu'elle était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. » Et il continue du jour plus tard en disant « Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement. » Mais le Van Estre, en fait, s'était déjà illustré auparavant en rédigeant un fameux amendement sur le rôle positif de la colonisation. Donc, enfin bref, il y a SOS Homophobie, ACT UP Paris et le SNEG, Syndicat National des Entreprises Gays, qui avaient porté plainte et un an plus tard, donc en janvier 2006, le tribunal correctionnel de Lille l'avait condamné à verser 3000 euros d'amende et 6000 euros de dommages et intérêts aux assos en soulignant que les députés avaient manifesté de manière outrageante son intolérance. Mais le Van Estre ne veut pas en rester là, mais... Finalement, la Cour d'appel de Douai confirme cette décision un an plus tard, en 2007, au motif qu'un parlementaire est investi d'une parcelle de la souveraineté nationale et que sa liberté d'expression est une condition de la démocratie et de l'état de droit. Du coup, le député UMP décide de faire un pourvoi en cassation, qui est le dernier recours possible. Et finalement, la Cour de cassation a annulé, mercredi de la semaine dernière, la décision de la Cour d'appel, malgré l'avis de l'avocat général, qui était pour le rejet de ce pourvoi en cassation. Mais il en est autrement et la Cour considère que si les propos litigieux qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004 ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression. Et Maître Morin, donc l'avocat de Van Estre, considère que c'est une décision de grande ampleur dans la mesure où la plus haute juridiction sanctionne l'ensemble de la procédure et des poursuites au regard de la protection de la liberté d'expression. C'est l'aboutissement d'un long combat judiciaire, a-t-il dit. Mais le combat n'est pas fini. En effet, certaines associations LGBT pourraient faire un recours à l'échelle européenne. Donc on verra bien. Hein. Et on a appris aussi, il y a quelques minutes, que le fameux Van Estre, encore lui toujours, veut dissoudre Gaylib, donc vous savez, l'association des gays et lesbiennes de l'UMP. Et en fait, Gaylib a écrit une lettre ouverte à Patrick Devedjian, donc le secrétaire général de l'UMP, en lui demandant de condamner les propos de Van Estre qui sont en contradiction, selon, avec les valeurs défendues par l'UMP et Nicolas Sarkozy. Du coup, Van Estre réplique, comme d'habitude, et déclare que Gaylib n'a rien à faire dans l'UMP et qu'il va demander la dissolution de l'association. Mais où s'arrêtera-t-il notre ami Van Estre? Il va bientôt dissoudre les gens en entier. Il va
dissoudre l'UMP.
Ouais. Il faudra qu'il dissoute l'UMP, c'est clair.
Donc hier, c'était le TIDOR, le Transgender Day of Remembrance. C'est la journée de la mémoire transgenre, en souvenir des personnes transgenres et transsexuelles assassinées. Donc ça existe depuis 1999 et c'est les 20 novembre de chaque année. Il y avait dans toutes les villes des discussions organisées, des mémorials, etc. Il y avait une discussion sur la transphobie à Chrysalide. Enfin, faite par Chrysalide, qui est l'association trans sur Lyon. Et cette discussion a lieu au forum gay, lesbien, rue Romarin. Il fera peut-être l'affaire d'un prochain reportage. Et on a appris, il n'y a pas très longtemps, justement, en parlant de transphobie, qu'à Ankara, le 10 novembre dernier, Dilek, une personne transgenre, a été assassinée. Quelques mois auparavant, elle avait porté plainte avec d'autres camarades transgenres contre des agresseurs transphobes et témoigné à leur procès. Et ceux-ci ont été libérés pendant l'audience du procès le 17 octobre dernier. En fait, ces incidents, c'était il y a quelques années, donc c'était entre le 7 et le 12 avril 2006 dans les quartiers d'Ankara. C'est des agressions qui se sont répétées le jour et la nuit contre des travestis et des transsexuels. Donc environ 15 personnes ont été agressées et deux ont décidé de poursuivre les agresseurs en justice.
Et une autre info lyonnaise, c'est à propos de la bibliothèque municipale de Lyon. Et en fait, à l'intérieur, il y a un fonds qui s'appelle le fonds Chaumara. Alors je vais vous expliquer. En 1992, Michel Chaumara déposait à la bibliothèque municipale de Lyon un important fonds d'archives diverses concernant l'homosexualité. Il faudra attendre mai 2005 et la première journée internationale de lutte contre l'homophobie pour annoncer le projet municipal de création d'un centre de ressources documentaires gays et lesbiennes. En 2006, le point G est créé à la bibliothèque de la Part-Dieu pour rendre visibles les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Alors ils disent, il s'agit à la fois de réunir des connaissances et de restituer la parole et l'expérience de personnes ou communautés stigmatisées. Donc le mois dernier, l'association gay et lesbienne Aris s'est rendu compte que les archives qu'elle avait transférées pour le fonds public à la bibliothèque en 2005 s'est retrouvées dans le fonds privé de Chaumara. Et l'embrouille est bien là. Toutes les archives LGBT sont transférées dans ce fonds Chaumara dédié à l'histoire LGBT. Sauf que ce fonds est privé. Cela veut dire que les archives appartiennent toutes à ce monsieur qui généreusement les rend accessibles pour le moment. De plus, c'est tout bénef pour lui, puisque depuis 92, son fonds s'est enrichi de diverses archives, notamment celle d'Aris. Donc nous, collectif de la DEPRAF, soutenons l'association Aris, car il est nécessaire que ces archives restent publiques. De plus, ce fonds Chaumara, très riche d'anciens fanzines, affiches, livres, etc., est presque inaccessible. Pour avoir l'autorisation d'y accéder, il faut être étudiant thésard et avoir de très bonnes motivations pour y aller. Fonds très élitiste donc, qui met en évidence que tout le monde ne mérite pas de connaître notre histoire. En fait, notre histoire, au lieu d'être dans un grenier d'une maison bourgeoise des Monts d'Or, est maintenant enfermée au quatrième étage d'un immense bâtiment public. Ça ne change pas grand-chose en somme. Ah si, que ce Chaumara a une auréole au-dessus de la tête pour toutes les pontes de la ville de Lyon, notable si empreint de culture et de bienséance, qui s'est dévoué en créant un fonds LGBT soi-disant accessible. Donc nous l'avons déjà déploré aux dernières assises gays et lesbiennes du printemps dernier par écrit, mais rien n'y fait. Alors il nous semble évident de soutenir l'association Aris pour que leurs archives soient publiques et plus largement de demander l'ouverture de ce fonds Chaumara à toute personne le désirant. Parce que l'histoire n'appartient pas seulement à ceux qui savent l'écrire dans des livres.
Non mais juste c'est dégueulasse ce gars-là de toute façon. Voilà.
Faut qu'on continue quoi. Et du coup là on va mettre une petite chanson, donc c'est La Rumeur, c'est un groupe de hip-hop français qui par certains propos on se retrouve pas avec eux, mais certaines chansons sont vraiment classe, notamment celle-là.
Vrai, les philosophes aussi, je suis l'ennemi juré du rayonnement de la francophilie. J'héberge trois tribus massailles sous mon lit, dont les mioches ont appris à fondre sur Paris. À l'arrivée des beaux jours pour fêter le printemps, aux premières manifs d'étudiants j'accours. Méfiez-vous de mes enfants, on les a exclus du ciel. Et comme les anges, les démons ont des ailes. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. C'est écrit sur ma gueule. Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Toujours à 40 000. Quand les rats sortent des bidonvilles avec des bidons d'huile. Ces trois équipes de télé tout au plus, caméra au point, qui m'attendent à l'arrêt de bus. Qui sont les vrais stars du JT? Les gentils condés ou les grands méchants noirs? Va falloir se décider, car mon casier judiciaire a horreur du vide. Un peu comme moi d'ailleurs, qu'y a-t-il de bizarroïde? Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver.
S'énerver. À moi tout seul, je suis une bande ethnique. Égorgeur de bêtes à poils laineux, la lame passée au feu. Sale tic à jurer à tout bout de champ. Pour des broutilles ou sur l'honneur de ses parents. Nom, prénom, claque, au fond de la gorge. De sorte que la BAC t'aime à bras le corps. Alors, qu'elle orne sur le coffre les tracts qui traînent. Manif contre le maire d'un malin vide la haine. Je ramène toute ma culture de gâteau ropeux. À la hit, vas-y partage, fais pas le var creux. Et le cheveu, harash qui affole la signalétique. Affiche ma bande ethnique.
Toujours ce regard aussi noir que méfiant, hein. Non pas du genre fuyant, mais plutôt horrifiant. J'ai ses doigts, ses mains qui marchandent. Qui baffe mais jamais ne demande. Sans compter cette grande gueule, j'suis bon qu'à jacter. Brailler, brailler, insulter, becter. Ses pieds qui ont couvert de la distance. Obligé de courir encore plus vite que les flics. J'pense avoir ce cocktail du parfait Morico. Pour m'écarter des clichés tropicaux. Banania, oui, buana, c'est comme ils veulent, hein. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver.
Y'a de quoi s'énerver.
S'énerver.
Tout niquer. Tout baiser. Tout péter. Tout démonter. Tout brûler. Tout défoyer.
Et nous voici de retour sur les ondes de Radio Canu pour l'émission de La Déprave.
La Déprave sur Radio Canu, la plus queer des radios.
Eh oui, la plus queer des radios sur Radio Canu.
Ok. Du coup, là, on est avec Karen et Jérôme. Et allez-y, présentez-vous.
Bonsoir, donc je m'appelle Karen. Et je suis donc prostituée à Lyon.
Bonjour, moi je m'appelle Jérôme et je suis salarié de l'association Cabiria à Lyon.
Et du coup, vous pouvez peut-être expliquer pourquoi on vous a invité, etc.
Oui, alors donc, dans un premier temps, c'est pour parler donc, du travail des travailleuses du sexe, donc les filles qui travaillent la nuit, enfin la nuit, le jour, uniquement dans la rue. Puis donc, l'arrêté donc, municipal qui a été mis en vigueur le 20 mai à Gerland. Et voilà, donc mon combat pour enrayer tout ça.
D'accord.
Donc moi je peux peut-être présenter ce qu'est Cabiria. Donc Cabiria c'est une association de santé communautaire avec les prostituées qui existe depuis 93, qui est aussi une association de lutte contre le sida en milieu prostitutionnel, voilà, si on met les choses politiquement correctes, c'est un peu comme ça qu'il faut dire. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Eh bien, donc comme je disais, Cabiria est une asso de santé communautaire. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au début où Cabiria a existé, il n'y avait pas du tout ce genre d'action qui était mis en place à Lyon. C'était essentiellement, les structures qui travaillaient pour les prostituées travaillaient uniquement pour elles et pas du tout avec elles. C'est-à-dire que, en gros, elles avaient décidé de ce qui était bien pour les prostituées et qu'en gros, il fallait qu'elles obéissent en gros à ce qu'on leur proposait. Et puis, Cabiria est née d'une recherche effectuée par des anthropologues qui travaillaient sur les rapports de genre. Et suite à cette recherche, il a été décidé que l'action qui se mettrait en place se ferait avec les personnes concernées du terrain. Et santé communautaire parce que les deux premières personnes qui ont été salariées dans Cabiria, c'est une infirmière et une prostituée, puis une deuxième personne prostituée et une deuxième infirmière, en essayant de respecter ce qu'on appelle la parité dans la structure. Alors parité dans l'équipe de terrain qui travaille et si possible aussi parité dans le conseil d'administration de l'association. Voilà. Et je dirais que au tout début, en fait, ce qui a motivé les personnes qui ont monté Cabiria, c'était d'absolument d'entendre la parole des personnes et de permettre à ces personnes de s'exprimer, y compris justement dans les médias, parce que la seule parole légitime des prostituées, et encore aujourd'hui en France, c'est la parole des prostituées qui ont quitté la prostitution, qui donc font preuve de repentance, et qui en gros dénigrent leur passé, voilà, donc... La parole des prostituées en exercice, en activité, qui revendiquent, c'est pas du tout la parole légitime. C'est même, je dirais, quasiment une parole clandestine, et que voilà, c'est un peu l'ambition de Cabiria au début, c'est de faire en sorte qu'au moins ces personnes-là soient entendues et voient au chapitre, je dirais, comme le veut la démocratie. Alors, je sais pas. Comme tout citoyen, comme tout un chacun, n'importe tout le monde puisse pouvoir s'exprimer, voilà.
Et du coup, toi, Karen, est-ce que tu peux nous expliquer, en fonction de ce que tu veux, comment et où tu travailles ?
Alors, au départ, donc, j'ai travaillé sur Perrache. Ensuite, il y a eu donc l'arrêté municipal sur Perrache qui nous a expulsés, on peut le dire. On s'est retrouvés donc à Gerland, dans la zone industrielle du parc de l'artillerie. Voilà, donc on s'est à peu près toutes regroupées sur ce secteur-là. Il y a un autre arrêté qui a été mis en place depuis le 20 mai, qui nous interdit de stationner et même de se balader, c'est le cas de le dire. On n'a même plus le droit de rouler non plus dans le 7e, puisque moi j'ai des copines qui se sont fait arrêter et descendre du camion alors qu'elles roulaient. Donc voilà, donc moi j'ai pris l'arrêté, je suis allée le porter à un avocat. Je lui ai demandé s'il était légal, il m'a dit non, j'ai dit ben on attaque. Et c'est ce que j'ai fait depuis le mois de mai. Donc on est passé en référé au mois d'août. Bon, ils ont estimé qu'il n'y avait pas de caractère d'urgence. Pourtant, tous les 15 jours, on a des mises en fourrière, des PV de 35 euros, des stationnements illégaux. Bon, ben voilà, tout. Et y compris la police qui tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et voilà, donc on attend. Normalement, on devrait passer, l'affaire devrait passer en début d'année, donc on attend. Il y a quand même, il faut bien le dire, l'arrêté n'est pas légal. Il y a 3 points sur lesquels il n'est pas légal. Donc normalement, on devrait pouvoir gagner pour que l'arrêté puisse sauter.
Est-ce que, moi j'ai une question aussi. Est-ce que avant, il y avait déjà, avant ce décret, il y avait déjà de la répression par le biais de la loi contre le racolage, notamment le racolage passif?
Alors moi, j'ai jamais été arrêtée pour racolage passif. J'ai eu des copines qui se sont fait arrêter, emmener au commissariat simplement pour avoir leur identité. Ils posaient des questions, mais c'était pas... Enfin, nous, dans notre... En fait, le racolage, quand ils arrêtent pour racolage passif, c'est plus des personnes qui n'ont pas de papier, qui sont, entre guillemets, sans défense. Voilà, ils vont pas arrêter n'importe qui non plus. Ils arrêteront pas une Française, quelqu'un qui connaît les lois, qui connaît tout ça. Donc ça, nous on n'est pas concernés pour ça. On est concernés pour les mises en fourrière, pour les PV, pour stationnement illégaux. Mais voilà, c'est tout.
Juste pour le racolage à Lyon, je rejoins complètement ce que dit Karen. Effectivement, on constate que la répression pour le racolage s'abat exclusivement sur les migrantes. Voilà. À Paris, c'est un peu différent. Effectivement, la lutte contre le racolage a concerné tout le monde, mais quand même majoritairement les migrantes. Voilà. Mais bon, ça a un peu plus touché, on va dire, les anciennes. Un peu, beaucoup plus qu'à Lyon, mais si on fait des voilà un rapport de proportion, c'est quand même une loi qui concerne les migrantes et c'est pas surprenant quand on s'intéresse un peu au débat parlementaire avant le vote de la loi pour la sécurité intérieure qui pénalise le racolage. Dans les débats, c'était clair que cette loi devait attaquer les migrantes, voilà, et que cette loi, elle a été faite pour, hein, faut pas se leurrer, mais pas faite pour protéger.
Elle n'est pas faite pour protéger les prostituées, en règle générale, puisque donc on est passible de 2 mois de prison et je ne sais plus combien d'amendes.
C'est 2 mois de prison et 3750 euros d'amende. Voilà.
Ça nous aide énormément, hein, d'ailleurs. Vous avez qu'à remarquer.
On peut passer à une chanson ?
Alors, du coup, la chanson, ça sera une chanson de Dréo, une nana de Lille.
Ah non.
Ah. harapée sur sa misérable sexualité, car encore trop limitée à explorer d'innombrables possibilités de communiquer. Vénère, je te serre le couvert, ton petit homme frappe à l'affaire, je me perds de loin dormir en célibataire. Mais solidaire, je sollicite celle dont l'esprit critique la répartie gratuite, de prouver à tous ces machos pervers qu'on n'est pas que de la chair et que nous aussi on sait le faire.
De retour sur les ondes de Radio Canu pour l'émission de la Déprave.
Du coup, on est toujours avec Karen et Jérôme.
Oui.
Et du coup, moi, j'avais une question autour de votre rapport avec les flics. Comment ça se passe, si tu peux...
Alors, quand l'arrêté a été mis en place, c'est vrai qu'ils ont fait pression sur nous. Mais on a tout de suite été reçus par les deux adjoints de la mairie de la 7e, du 7e et du 8e arrondissement. On a été reçus à la mairie du 8e en expliquant le pourquoi on ne voulait pas partir, le pourquoi on est des citoyennes, on fait un travail qu'on aime, on n'est pas victime. Moi, personne ne me bat pour aller travailler le soir, j'y vais toute seule, je suis une grande fille. Donc voilà, on a discuté avec eux. Eux, ils nous ont dit, bon, l'arrêté étant signé par le préfet, qui évidemment s'est empressé, je suis sûre qu'il s'est levé à 5h du matin pour le signer. Donc automatiquement, l'arrêté étant signé, ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Donc ils ont dit, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Nous, on leur a dit, on reste. Donc après, j'ai donc emmené ça entre les mains d'un avocat, qui lui m'a dit, on peut le contester, l'arrêté, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on tient, on est dans l'illégalité, il faut bien le dire. Tous les soirs, on travaille dans l'illégalité, ça veut dire qu'ils peuvent arriver avec les camions de fourrière n'importe quand. En ce moment, c'est tous les 15 jours, mais voilà, c'est...
Et ça se passe comment quand ils viennent ?
Bah, de deux choses l'une, ou ils bloquent d'un côté et de l'autre les rues, ce qui fait que les filles ne peuvent pas démarrer, soit même au volant d'un camion démarré, prêt à partir, ils font stopper le camion, descendre la fille et ils embarquent en fourrière, soit on passe dans la rue, s'ils sont là au moment où ils embarquent, ils arrêtent le camion, ce qui n'est pas légal, on a quand même bien le droit de circuler, enfin je veux dire, c'est pas une zone... interdite. Donc voilà, après moi je me suis fait embarquer en fourrière un petit peu volontairement, puisque l'avocat m'avait dit, si vous voulez contester, il faut bien quand même que vous ayez des preuves comme quoi vous avez été embarqué. Donc je les ai laissés faire. Je suis tombée sur une folle furieuse qui d'ailleurs 5 minutes avant avait empêché une de mes collègues de s'habiller pour rentrer chez elle. Elle voulait qu'elle rentre comme elle était dans le camion. Moi, elle m'est tombée dessus, j'ai dit, mais c'est pas la peine de hurler, de toute façon, le camion, je vous le laisse, ça fait 10 minutes que je vous attends, que je vous vois tourner, si j'avais voulu partir, je serais partie déjà depuis longtemps. Et elle a commencé à hurler, vous bougez pas, machin, et j'ai reconnu donc un des gars qui tourne souvent dans le 7e, qui est donc à la nationale, je l'ai reconnu, donc on a de bons dialogues tous les deux, on discute assez bien. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, pourquoi elle crie comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Il me dit, non, mais c'est comme... J'ai dit, mais vous savez très bien pourquoi on est là, pourquoi on se bat, on vous a déjà expliqué le pourquoi du comment. Il m'a dit, oui, je sais. Mais bon, apparemment, elle n'était pas décidée à faire dans la dentelle avec nous. Donc voilà, mais je leur ai dit, prenez-le le camion, c'est pas un problème. On ira le chercher demain. Et voilà, donc du coup, bon, on n'a pas de rapport vraiment musclé, enfin... C'est toujours pareil, ils savent à qui ils le font, ils savent comment ils doivent le faire, ils savent pourquoi. Voilà, nous on a plus de rapports, bon ils font leur boulot certes, ils sont payés pour ça, ils font leur boulot. Maintenant il y a des façons de le faire effectivement. On ne peut pas dire qu'on est agressé par eux, on ne peut pas dire que... Mais voilà, ils font leur travail, quand ils arrivent c'est... allez hop, vous descendez du camion et vous nous laissez le camion, il part en fourrière. Voilà où on en est à l'heure actuelle.
Est-ce qu'il y a au niveau des amendes, par exemple ?
Alors, amende, moi, j'ai eu des filles qui se sont fait embarquer 2 fois dans la même journée, soit 146 euros de fourrière, plus 35 euros d'amende, évidemment, puisque ça va avec. Il y a eu des filles qui ont eu jusqu'à 7 PV dans la journée. Ah oui, non, mais c'est du harcèlement, ça. Hein. C'est vraiment... Donc, ils estiment que, ben voilà, c'est illégal. Alors, comme je leur ai dit, vous savez très bien que tant que c'est pas passé au tribunal et que ça n'a pas été jugé... Au moins, attendez la décision du tribunal. Non, pour eux, non. C'est de l'argent qu'ils récoltent, voilà. Ça va permettre de payer les indemnités pour le Noël. Ça va faire plaisir à tout le monde, mais pas à nous, hein. Donc, voilà.
Et est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que c'est que la loi contre le proxénétisme, a priori? Ce qui est quand même d'empêcher de toucher de l'argent
là,
à partir du travail de la...
Mon collègue Jérôme, parce qu'il est bien placé pour ça.
À propos du travail comme ça de la prostitution, et là, c'est clairement une taxation. Enfin, c'est clairement un racket du travail de
c'est
la prostitution.
Racket.
Et du coup... pourtant, il y a juste l'État qui a le droit d'être proxénète. Pourtant, toutes les solidarités entre personnes qui travaillent et tout ça, ça, par contre, c'est interdit. On peut pas se prêter sa camionnette pour travailler. On peut pas.
On ne peut pas travailler dans son appartement si on est locataire. On ne peut pas travailler à deux dans un camion puisque la plus âgée prend pour proxénétisme. En fait, tout ce qui aide à la prostitution est condamnable pour proxénétisme.
Donc, notamment les solidarités.
Tout.
Mais par contre, racketter l'argent par le biais d'amendes,
ça, c'est légal. C'est l'État, donc c'est légal.
Ça fait rentrer des sous dans les caisses de l'État, forcément.
Bien sûr.
Enfin, on sait bien que l'État a le monopole de la violence légitime, quoi, et qu'en tout cas, là, il en utilise et en abuse, même, on pourrait dire. Et donc, par rapport à ça, effectivement, nous, on a, à Cabiria, on a essayé de faire un petit comptage depuis le mois de mai des PV, des enlèvements de camionnettes. D'après nos essais, c'est des estimations, hein, c'est pas du tout un chiffre exact. Mais bon, on estime qu'il y a eu largement 200 enlèvements de camionnettes et de mises en fourrière. Donc ça veut dire 135 euros plus aussi 35...
146 plus 35 d'amende.
Alors, ouais, enfin voilà, bon, en gros, on va pas faire...
On va dire 180.
C'est pour donner un... C'est, voilà, à peu près 180 euros multiplié par 200... Là, juste pour depuis le mois de mai, parce que si on prend ça sur une période plus large depuis 2003, bah, par exemple,
déjà c'est Perrache, ils avaient commencé.
Voilà, c'est des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'enlèvements de camionnettes qui, enfin, moi, je peux pas m'empêcher de penser que ça rapporte forcément de l'argent à l'État, à la municipalité, et que effectivement, là, on peut quand même se poser la question du proxénétisme. Surtout que nous, on voit par ailleurs des femmes qui exercent en campagne et qui sont parties exercer en campagne dû à la pression policière en ville. Et là, on a le cas de trois, quatre personnes qui ont vu la personne qui a accepté qu'elle gare leur camionnette sur leur terrain être poursuivie devant les tribunaux. Il y a un procès, je ne sais plus si c'est fin avril ou fin mai ou fin février. Et cette personne va être poursuivie pour aide à la prostitution et proxénétisme parce qu'il a accepté que trois camionnettes soient garées sur son terrain. Voilà. Alors là, par contre, c'est du proxénétisme et on va poursuivre les gens. Voilà. C'est vraiment, il y a deux poids deux mesures, quoi. C'est dingue. Alors que cette personne-là, nous, les prostituées, nous ont dit qu'elles avaient jamais donné d'argent et que le propriétaire de la maison et du terrain là leur avait même pas donné d'argent, alors qu'on a pu lire dans le Progrès que cette personne était payée par des prestations sexuelles en nature et que de temps en temps elle donnait de l'argent. C'est ce qui est écrit dans les journaux. Voilà. Alors là on raconte des choses. Comme par contre
sinon c'est pas crédible.
Bah non,
voilà. Faut bien porter de la légitimité.
Voilà.
Aux actes.
Tant qu'à faire, il faut en rajouter un petit peu.
Voilà.
Et moi j'ai une question aussi sur les conditions de travail. Du coup, est-ce que la répression, ça change quelque chose dans le rapport? Par exemple, est-ce que les flics se sentent plus encore plus légitimes pour réprimer? Est-ce que les clients ils se sentent
quand il y a les policiers, enfin les flics qui tournent toutes les heures, qui font des rondes, que ça soit la BAC, que ça soit la police nationale ou la police municipale, puisque maintenant ils s'y mettent à trois. Donc forcément les clients ils s'arrêtent pas, ils ont peur. Parce qu'on peut aussi verbaliser un client. Donc il y a certains clients qui sont dans le trac en se disant « je vais sortir du camion, je vais me faire arrêter ». Bon, maintenant, on s'est toutes passé le mot, on a une faille pour ça, mais voilà. La peur du client, de toute façon, le client l'a. Après, s'il n'a rien à se reprocher, évidemment, il s'en fout de se faire arrêter. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, voilà. Donc nous, ça nous fait un manque à gagner au niveau de l'argent, puisque chaque fois qu'on les voit tourner, ce n'est pas franchement bon pour nous, hein, comme on dit... la police est là pour nous protéger, mais qui nous protège d'eux. Donc, voilà, on est toujours dans la... où on ne travaillera pas. Alors, quand c'est des descentes en fourrière, ça commence à 7h le soir, et ce, jusqu'à 11h ou minuit. Donc, ça veut dire pour nous, la soirée, elle est finie. On n'a plus qu'à rentrer. Donc, en fait, c'est eux qui décident quand on doit travailler, quand on ne doit pas. Moi, je ne veux pas de patron. Malheureusement, j'en ai un. Ça m'embête un peu. Ça me dérange quelque part. Hein, si je fais ce métier, c'est justement pour pas avoir de patron.
Ouais, et puis alors ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, on a un état, et puis enfin la tendance actuelle, c'est quand même que les prostituées arrêtent de se prostituer et qu'elles se réinsèrent. Et paradoxalement, en faisant comme ça, effectivement, les gens sont obligés de se prostituer plus longtemps, voilà, plus longuement, pour gagner autant, voire moins d'argent. Donc c'est complètement contre-productif si on se place de ce point de vue-là. Donc ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est censé dissuader les gens d'exercer et de venir exercer. Mais c'est pas possible parce qu'il faut vivre. Il faut gagner sa vie. Enfin, je veux dire, puis jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas de l'argent par terre comme ça en se baissant. Et il faut bien faire quelque chose. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui exercent le travail du sexe ont un rapport avec le monde du travail classique. Parce que c'est pour la plupart aujourd'hui des gens qui ont ou travaillent et cumulent plusieurs emplois. Donc c'est complètement, c'est pas du tout justifié de dire il faut que il ou elle quitte la prostitution pour se réinsérer. C'est déjà des gens qui travaillent dans le monde du travail classique et qui n'arrivent pas à, enfin pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais qui n'arrivent pas à vivre suffisamment décemment avec les petits salaires qu'il ou elle récolte. Voilà.
Donc, et puis c'est bien gentil de nous dire il faut arrêter, mais bon, je suis désolée, moi j'arrêterai quand moi je le déciderai. Hein. Et j'ai pas envie d'arrêter. J'ai été secrétaire, j'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie de recommencer dans ce système-là, parce que c'est encore pire. Voilà, il y a un patron au-dessus, il se défoule comme il a envie. Moi, non, je veux pas de patron et je veux pouvoir travailler comme j'ai envie.
Et il y a pas de prostitution dans le monde de l'entreprise.
Ah, tu crois ça? Ah, bah, et celle
pas.
Qui, excusez-moi, mais bon, celle qui lève la jupe pour l'avancement, c'est quoi? Bah oui, faut être logique. De toute façon, à partir du moment où la prostitution, c'est pas qu'un échange d'argent, c'est à partir du moment où vous voulez une secrétaire qui veut de l'avancement, elle se tape pas le boss pour rien, quoi.
C'est un échange de service.
Voilà, tout à fait. Donc c'est de la prostitution quelque part, même s'il y a pas d'argent. Ben voilà. Donc il faut arrêter déjà de nous critiquer nous, parce que c'est nous les plus franches quelque part. Hein. On fait un acte, on est payé pour un acte. Voilà, donc c'est plus logique. Enfin, moi, je préfère être prostituée qu'être secrétaire. C'est un choix.
Et du coup, on va lancer une autre chanson, c'est Bambix Conquered All.
Et donc après, on peut en venir à ce que le changement de la loi, ce changement sur cette loi de proxénétisme.
Ouais. Le temps de l'espionnage révolu, cafétrage, les pare-balles, on entre en action comme convenu, mission sabotage. Pour sauvetage, on a trop attendu, les otages, comme des sauvages, ont été abattus.
Mais qui les a libérés? Y'en a partout sur les affiches, les lampadaires, les poteaux électriques. Ça manque pas d'air, un petit bras hypocrite. On serre les mains, on monte les dents, tu es malin, on est en bus sur le trottoir de l'avenue politique. Y'a les culs sur les PQ, car cet hiver, on va se payer le cul. À l'Assemblée, non, comédien de l'arté.
Ok, petit problème technique, on vous remet Bambix tout de suite.
Thank you.
encore de retour sur Radio Canu
dans l'émission de la Déprave.
Voilà.
Donc Karen, j'ai une autre question, c'est vous travaillez à Gerland.
Oui.
Maintenant, avant c'était à Perrache.
Oui.
C'est quoi les rapports avec les gens qui y travaillent, qui y habitent, etc.
Alors, moi je suis dans une zone où c'est uniquement des bureaux. Donc une fois, ils ont fait une réunion en disant que oui, effectivement, on les dérangeait, patati patata. Mais personne n'est venu nous voir, personne n'est descendu pour nous dire, voilà, c'est vous les premières concernées, puisque c'est vous qui nous emmerdez au milieu de la rue. Bon, ils ont fait leur petite réunion entre eux, ils sont allés se plaindre à la mairie. Bon, moi, je viens à 7h le soir, les bureaux sont fermés, il n'y a personne. C'est une rue tranquille, je veux dire que si une voiture passe, c'est pas parce qu'on s'est perdu, hein, c'est bien parce qu'on est là. Maintenant, il y a des rues, comme la rue Chalmel-Lacour, qui est donc l'artère principale entre la route de Vienne et le pas le stade, mais le truc de concert.
L'Altony Garnier.
Voilà, l'Altony Garnier, excusez-moi. Donc cette rue-là, je conçois qu'il y a des habitations, il y a deux collèges, je conçois que ça ne soit pas adapté à la prostitution. Mais il y a certaines rues qui le sont, c'est ce que je voulais discuter avec la mairie justement, pour qu'on trouve des solutions, de manière à ne pas non plus déranger les riverains, ce qui se comprend, puisqu'ils sont chez eux aussi. Nous, la rue, on vient, on l'emprunte, elle n'est pas à nous. Moi, quand je ne stationne pas avec mon camion, j'arrive avec, je repars avec, je ne laisse pas traîner mes poubelles partout, je laisse la rue dans le même état que je l'ai trouvée. Donc je pense qu'on peut arriver à cohabiter entre les prostituées et les gens qui travaillent de jour sans que ça crée de problème. Maintenant, il faut en discuter et j'étais prête pour le dialogue. Bon, eux, ils ont estimé que non, c'était tout le monde interdit, point.
Ouais, moi, je voudrais rajouter un petit truc par rapport à ça. C'est ça qui est dingue, c'est que effectivement, la mairie a voulu faire preuve d'initiative citoyenne ou je sais pas quoi, de démocratie participative. Là, c'est truc bien à la mode, là. Et donc, ouais, et puis c'est du blabla en fait, parce qu'effectivement, ils ont discuté avec tout le monde, et sauf avec vous. Et voilà. Par contre, une fois qu'il a été décidé de voter l'arrêté municipal, qu'on pouvait plus rien faire, alors là, ils ont invité effectivement.
Là, ils nous ont reçus.
Les travailleuses du sexe qui exerçaient. On a bien voulu discuter avec vous. Alors venez, on discute, machin. Ah, mais de toute façon, on peut plus rien faire, quoi. Parce
mais
que c'est fait, c'est trop tard. Alors que c'était quand même avant.
Bien
peut-être
sûr.
Quand même qu'il fallait peut-être les convier. À la discussion.
Qu'ils ont
mais
eu,
là, c'était.
Dès qu'ils ont eu les premiers gens qui se sont plaints, c'est là où il aurait fallu faire des réunions et tout. Mais bon.
Non, mais c'est plus simple une fois d'en parler une fois que la décision a été prise.
Bien sûr.
Mais il y a une femme d'ailleurs qui est directrice d'école qui a porté plainte et comme quoi ça dérangeait ses élèves et après on a su que en lisant on a su que c'était des étudiants qui ont tous plus de 18 ans alors
d'accord
ça te dérange
je comprends que ça devait les déranger quelque
alors part. En fait elle a... ce qui est dingue c'est qu'effectivement on avait l'impression que c'était un dépôt de plainte alors qu'en fait il y a jamais eu de dépôt de plainte. C'était plutôt du bluff. Bon, on l'avait déclaré ça par voie de presse. Et puis oui, quand on écoutait, enfin quand on lisait dans l'article, on avait l'impression que vraiment ces pauvres petits élèves étaient victimes limite d'attentats à la pudeur et de racolage très actif.
Et
que effectivement là, ça nuisait vraiment à leur moralité. Et alors que c'est une école post-bac qui forme des gens qui ont plus de 18, voire largement plus de 25 ans même, et qui sont tous des jeunes, jeunes certes, mais jeunes, des jeunes majeurs ou des majeurs, enfin, pas du tout
bien
des mineurs. Ils étaient
bien contents de pouvoir regarder par la fenêtre pendant le cours, quoi.
Et que,
venir de temps en temps quand ils finissaient les cours plus tôt.
C'est vraiment une hypocrisie pas possible. Et puis, juste par rapport à ce que tu dis, où effectivement on peut comprendre et entendre le fait que les riverains soient pas forcément ravis que leurs enfants, sur la route de l'école, dans le bus, voient dans des camionnettes des personnes en string. Mais voilà, enfin, moi, je trouve moi, ça m'énerve, ça, parce que, par ailleurs, ces enfants-là, quand ils vont rentrer de l'école, ils vont allumer la télé, ils vont regarder Internet ou la PlayStation,
ils vont
regarder
devant des pubs.
Ou alors des gens qui s'égorgent, qui se fracassent à coups de machette ou à coups de fusil. Mais quand c'est un bout de chair, alors là, c'est horrible, attention. Enfin, tout ça, c'est pénible, quoi.
Parce qu'on est victime aussi d'agressions de la part des jeunes, hein, de la part de ceux qui nous comprennent pas, pour qui ça paraît complètement aberrant d'être dans la rue, dans un camion. Donc on a des cailloux, ils nous jettent des pierres, ils nous cassent les pare-brises, ils foutent le feu au camion quand ça les arrange. Voilà, quoi, je veux dire, on a aussi cette agression-là. Donc il y a les flics, il y a les jeunes, ça fait beaucoup.
Mais c'est étrange, ouais, comment, quand c'est de la représentation, dans les publicités et tout ça, c'est très commercial, ça, c'est très accepté. En plus, il y a justement plein d'argent, mais qui va pas aux personnes directement dont on... qui présentent par exemple leur corps, etc. Puis là, quand c'est vraiment directement des personnes qui disent, ben là, on est dans cette société-là, il y a cette stratégie possible pour justement se réapproprier ben, du coup ce pouvoir que ça nous donne, que de comprendre que notre corps est un enjeu et peut et qu'on peut tirer de l'argent, mais nous direct, enfin du coup directement, et ben là, c'est pas compris et
non, c'est
mal perçu. Alors que quand c'est au contraire, il y a peut-être beaucoup, enfin il y a beaucoup d'exploitation quand c'est à l'intérieur d'un gros système de publicité, ou alors du coup les personnes qui bossent, je pense qu'ils sont à soutenir aussi et tout ça, parce que sont prises dans un engrenage. C'est énorme, industriel et tout ça.
Ça a toujours été hypocrite en la France, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Mmh.
Mais par exemple, une anecdote par rapport à ce qui est dit là, c'est une nuit, en travaillant la nuit, deux collègues s'arrêtent à Perrache, à côté de personnes à pied, parce que du coup à pied il y a quand même des gens qui exercent. Et au cours d'une discussion avec une jeune fille nigériane, qui montre son téléphone portable à ma collègue, et sur l'écran du téléphone portable, il y avait le couple présidentiel. Et alors là, ma collègue lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça sur ton téléphone? Elle dit, ah ben, on a cherché sur Internet cette dame-là. Comment elle s'appelle? Alors, elle lui dit son nom. Elle dit, oui, mais ok, on a cherché sur Internet. Elle, on la voit à poil partout. Ah. Et comment ça se fait que elle, les flics l'arrêtent pas alors qu'elle est tout le temps à poil, et que nous, on est là à Perrache, et que nous, on nous arrête, on nous emmène en garde à vue sans arrêt. Ah. Voilà, bon.
C'est tout, ouais. Bah, il y en a qui ont le droit, d'autres non.
Par rapport au quartier, moi, il m'avait semblé que pendant les rencontres avec les élus, ça avait été glissé que bon, c'était un peu triste et tout ça, mais qu'aussi, un des intérêts des riverains, c'était parce que Gerland, ça prend de la valeur, et que du coup, au niveau immobilier, ça va peut-être faire perdre de la valeur à leur appartement, alors ils disaient, c'est bien triste. Mais du coup, au lieu de revaloriser l'image même des prostituées qui travaillent, qui font partie du coup du quartier tout autant, et justement, il n'y a peut-être pas... Il y a forcément à hiérarchiser la légitimité à être dans ce quartier, mais en tout cas, là, elle est hiérarchisée. Mmh. Et du coup, et voilà, dire, ah, c'est bien triste, hein, les préoccupations des gens, c'est par rapport au prix de leur immobilier dans ce quartier. Et ben, déjà, c'est vraiment, en effet, triste comme considération toute de, du coup, on comprend bien que c'est cet électorat-là qui est plus pris en compte. Et en plus, s'il y avait un travail à faire, ce serait justement, de valoriser la prostitution et le travail du sexe comme
bien sûr, de la légaliser,
une activité des personnes à part entière qui font partie
bien sûr. Quand on était à Perrache et qu'on y a eu l'arrêté, ils nous ont dit on va construire des immeubles, on va faire ci. Ça fait plus d'un an et demi qu'on est parti, on n'a encore pas vu la première pierre, hein. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils auront le temps de l'arranger, le quartier, mais enfin on attend. Voilà, ça tout. On aurait pu encore travailler un an de plus. Voilà, c'était pas une obligation de nous jeter du matin 7 heures en disant ça y est, partez maintenant, ça suffit, vous êtes indésirables. Bon, Gerland, je vois pas où ils veulent valoriser quoi que ce soit, puisque de toute façon, moi c'est des bureaux, ils vont pas les démonter les bureaux pour faire des immeubles. Hein. Donc je pense que il y a peut-être certains quartiers, mais c'est grand le 7e, c'est grand le 8e. Je veux dire, il y a d'autres endroits où on peut se positionner, mais j'y crois pas trop, moi, cette histoire de revaloriser le quartier.
Ce sera pareil dans chaque quartier à chaque
fois. Bien sûr. De toute façon, on ira style, je sais pas, moi, à Saint-Fond, ils vont nous dire, ah ouais, non, mais on va construire une usine ou on va faire machin et tout. Vous pouvez pas vous mettre là. À chaque fois, il y a des faux prétextes pour nous empêcher de nous poser. C'est vrai qu'on est nombreuses. C'est vrai qu'on passe pas inaperçu, puisque quand on se déplace, on est 30, 40, 50, voire 100 camionnettes. C'est certain qu'on tient de la place, mais il y a des solutions. Si c'était légalisé, si on avait un travail qui est reconnu comme un vrai métier, on aurait des solutions à proposer de manière à ce qu'on ne gêne plus dans la rue et qu'on puisse travailler tranquille, en toute sécurité. Bon, faudrait peut-être qu'ils s'y mettent, hein.
Vous pourriez louer des appartements.
On pourrait acheter des studios, on pourrait acheter des terrains pour celles qui veulent continuer à travailler dans les camions. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la loi sur le proxénétisme dit que la fille qui achètera un immeuble ou un terrain et qui achètera à un gars, ce gars-là risque de tomber pour proxénétisme, et la fille qui revendra les appartements tombera également pour proxénétisme. On n'avancera jamais.
Oui, puis c'est pas possible d'héberger.
Ça bloque tout. Cette loi, il faut l'enlever. L'adapter, mais l'enlever. Je dis pas qu'il n'y a pas des filles qui ont besoin d'être protégées des proxénètes, ça c'est vrai. Mais faut relativiser. Maintenant, on est des filles qui travaillons pour nous, pour notre compte. On n'a plus de proxénètes au-dessus de nous. On fait ce qu'on veut. Donc, voilà, il faut relativiser ça aussi. Et en même temps, changer cette loi qui nous empêche d'avancer.
Donc,
de toutes les façons, oui. On ne peut pas. On voudrait disparaître de la rue, certes, vous ne nous voulez plus dans la rue, mais c'est parfait. On va aller dans des studios, on va travailler chez nous, on va travailler ailleurs. Ils aménagent pour les gens du voyage des terrains avec sanitaire et tout, pourquoi pas pour nous ? Pourquoi pas nous faire des endroits où on serait sécurisé, où ça serait propre, où ça... Voilà. Alors, on nous oblige à nous regrouper. On nous... Perrache, il venait vider les containers à poubelle une fois par semaine, voire deux fois par semaine. Évidemment qu'on a des déchets. Et après, ils disent, regardez, c'est le bordel. Ben oui, mais qui l'a forcé ? Qui a forcé à faire le bordel ? C'est pas nous. Nous, on subit ce qu'on nous fait. Je veux dire, si personne vient nettoyer, si personne... évidemment que c'est le bordel. Mais nous, on veut pas travailler dans le bordel. On veut travailler dans la sécurité, on veut travailler dans le respect, on veut être bien et on veut faire un métier qu'on aime, quelque chose qui n'est pas déshonorant pour nous. Voilà.
Donc au moins décriminaliser, puisque ce serait la moindre des choses que moi arrêter d'être traité comme des criminels.
On est des délinquantes, voilà. Au jour d'aujourd'hui, de victimes en 80, nous sommes passées comme délinquantes puisque nous nous opposons, puisque nous vendons notre corps. Donc on est des délinquantes, au même titre que le gars qui va faire un braquage ou n'importe quoi. Voilà, c'est pareil. On est le même statut. Et pourtant, on ne fait rien de mal, hein, jusqu'à preuve du contraire.
C'était un des slogans, même dans les manifs, de vous coucher avec nous et vous voter contre.
Voilà,
nous.
Voilà. Il y en a eu d'autres, oui, entre autres celui-ci, oui, tout à fait. Mais voilà, c'est ça. On a des solutions. Maintenant, personne ne veut nous écouter. On a des choses à proposer, aussi bien avec les mairies, aussi bien avec le gouvernement, même, s'il faut. Mais voilà, moi, de toute façon, j'ai un combat à mener. Ce n'est pas l'arrêté municipal qui va m'arrêter, c'est le cas de le dire. Je veux aller plus loin, je veux que ça soit reconnu comme un métier. Une bonne fois pour toutes, qui nous considèrent comme des prostituées à part entière. C'est tout.
Parce que, avec par exemple, là, comment ça se passe pour avoir accès à la sécurité sociale ?
On n'en a pas.
Et pourtant, vous devez payer des impôts, a priori.
Oui, on doit payer des impôts, c'est une loi. Mais payer des impôts, c'est quand on a un travail, il me semble. Enfin, je sais pas. Les gens qui payent des impôts sont ceux qui travaillent. Mmh. Nous, vu qu'on n'a pas le droit de travailler et qu'on n'est pas reconnu comme un métier...
Donc, il faut payer des impôts, mais pas avoir les acquis sociaux qui sont normalement associés.
Voilà, on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas le droit à la sécurité sociale, on n'a pas le droit à la retraite, encore moins. Donc, on a le droit à rien, en fait, si ce n'est qu'à payer. On est bonne qu'à payer. Voilà.
Ben, merci.
De rien.
Du coup, on peut écouter une dernière chanson et puis passer au rendez-vous de la semaine prochaine.
Et ben bonsoir à tous.
Ben merci beaucoup.
Merci d'être intervenu.
Bonsoir.
Merci.
Le temps de l'espionnage, révolu, capte trash, les pare-balles, on entre en action comme convenu. Tiens, sabotage, pour sauvetage, on a trop attendu. Les otages, comme des sauvages, ont été abattus.
Mais qui les a libérés ? Y'en a partout sur les affiches, les lampadaires, les poteaux électriques. Ça manque pas d'air, un petit bras hypocrite. On serre les mains, on monte les dents, petit malin, on est en bus sur le trottoir de l'avenue politique. Y'a les culs sur les PQ, car cet hiver on va se payer le cul. À l'Assemblée, non, comédien de l'arté. En politique, 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 politique.
Chaque parti souhaite créer son univers, sa météor c'est pervers. C'est la course à l'opium, les répercussions sont sévères. C'est l'avenir de nos enfants qu'on hypothèque sans toute discussion synthétique. Salut tout le monde, s'entend au fond, nulle personne n'est assez en forme pour mettre ses principes en pratique. Concentrons nos efforts sur nos actes, sont indélébiles. En politique, 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 en politique.
On ne pas entier en bourse, en bouffe dans les mains d'hommes blindés. Une bonne idée d'un plat sec, saveur poussière, l'été d'un mal digéré. J'ai rêvé d'un monde ailleurs, trop de mauvaises odeurs. Les villes souffrent, sous l'odeur de soufre. La fenêtre sur le destin, mais je ne vois rien. Juste des vies du mal, d'un monde malsain, voué au déclin. Occidental, cauchemar américain, chaos et putain. Amour et les chiens. En politique, 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 politique. They can teach.
Sans confiance ou avoir du pouvoir de gouverner. C'est une macro-politique où le contact personnel est annulé. Remplacé par les rapports médiatisés. Voyez demain les discours télévisés. Ce monde, grand théâtre où se joue l'histoire de nos vies à guichet fermé. Au-delà du sens, au-delà des mots, derrière les valeurs, les jugements particuliers, se livre une bataille qui oppose les riches aux pauvres depuis l'éternité. Une lutte sans fin dans un puissant fond. Puisse la politique servir à maintenir nos privilèges, qu'elle soit un moyen de réaliser l'intégration de tous dans la société. C'est égal, les différentes classes sociales s'affrontent en vain. Car enfin la politique est bel et bien ce monstre hideux que chacun croit pouvoir maîtriser, parfois même dompter, mais qui demeure le cerbère gardien des portes de l'enfer auquel l'humanité semble destinée. Regarde enfin sa troisième tête tournée vers les cieux et l'avenir à naître proclamé aux dieux. La victoire du mal est
sa supériorité sur l'être.
En politique, 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 politique.
They can,
they can, they can teach. They can teach, yes. They can teach. They can teach, yes. They can teach.
En politique, 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 politique.
They can, they can, they can teach. They can teach, yes. They can teach. They can teach, yes. They can teach.
Donc on enchaîne sur la rubrique rendez-vous, les rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc à Varsovie, il y aura un queer festival. C'est un queer radical, féministe, anarchiste et anticapitaliste festival. Ça aura lieu du 27 au 30 novembre. Au programme, il y a des films, des concerts, des performances, des ateliers. Pour toutes les informations, il faut aller sur clearzift.wordpress.com, donc clearzift.wordpress.com. Voilà.
Et plus localement, il y a un festival du film gay et lesbien à Saint-Étienne. C'est le quatrième et c'est le festival Face à Face. C'est du 20 du coup d'hier au 23 novembre. Et du coup, c'est une programmation très variée. Du coup, il y a notamment dedans le documentaire La Révolution du Désir qui retrace les actions du phare. Il y a l'incontournable Short Bus. Il y a le bal des chats sauvages. Bref, il y a tout un tas de films, même des courts. Donc, les infos, c'est sur le site www.festivalfaceafface.fr, c'est tout attaché. Et du coup, je voulais quand même dire que, notamment, dans la soirée d'ouverture officielle, elle est organisée par le FLAG. Vous voyez, le FLAG, c'est les flics lesbian and gay, quoi. Donc, et ils veulent faire une petite performance, c'est-à-dire un hommage à Stonewall. Donc, on peut imaginer la descente de flics, on peut imaginer les palpations, les fouilles en règle et les contrôles d'identité en même temps. Du coup, c'est pour dire que c'est pas mal qu'il y a des festivals, mais quand même, on peut pas s'allier avec tout le monde et il suffit pas d'être gay et lesbienne pour aimer tout le monde.
Mais comme Gaylib, je pense que Van Est, il demande la dissolution de Gaylib, il devrait aussi demander la dissolution du FLAG. Ça nous arrangerait bien. S'il pouvait après dissoudre l'UMP et le reste.
Et du coup,
Vanessa peut se porter garante de toutes ces petites dissolutions intéressantes.
Il reste 2 minutes. Est-ce que tu veux, Karen, tu veux dire un dernier petit
mot ? Oui, je voudrais déjà souhaiter du courage à toutes mes copines qui travaillent, leur dire que le combat n'est pas fini, que c'est que le début, et voilà, leur faire plein de bisous, leur dire que je pense à elles.
Ah, merci.
Super. Ok.
Bon, à dans 2 semaines.
Ah, dans 2 semaines, n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est l'émission féministe Radio Lilith Martine et les autres. Voilà, voilà.
Ciao.
Salut.
I feel so much sorrow on my skin, on my skin. I feel so much sorrow on my skin, on my skin.